Multimédia. Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN.
Bonjour, bienvenue à tous sur Multimédia. Moi c'est Liam et on est toujours diffusé sur RCN 97 et Radio Campus Lorraine sur vos stations d'A+, sans oublier les sites internet respectifs. Multimédia, c'est votre émission politico-médiatique pour mieux vous informer sur vos sources d'informations.
Multimédia.
Toujours au téléphone, reporter sur place dans le nord de la France et toujours plus proche de la friteuse.
Ah,
c'est
putain,
Martin.
Je me souviens, il va nous la faire.
La frite.
C'est Martin.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver.
C'est comment
vas-tu ? Salut Martin.
Eh ben ça va très très bien, le nord va bien.
Super. Bien au chaud au studio, on est là avec Pablo et Julien.
Comment
bonjour. Allez-vous ?
Coucou.
Fort bien et toi ?
Eh ben ouais, ça va.
En forme.
C'est la première fois qu'on retourne la question. Alors,
au programme.
Donc les infos, suivies de la définition et de la chronique de Martin, gravitant autour d'un thème, la mort de Quentin Durenc. La définition abordera la réappropriation effectuée par l'extrême droite, suivie par un zoom sur le traitement médiatique par Martin. Pablo, lui, il sait lire. Et pour nous le prouver, afin que son brevet des collèges trafiqués ne soit pas révoqué, il va parler de 1984, livre prophétique de nos sociétés actuelles. Entre chaque partie, Julia va nous faire cogiter, ou plutôt rétijoque, avec des citations, mais inversées,
c'est rigolo,
mais
bien
à l'envers. Donc des petites notatices maison réalisées avec Matisse, encore une fois, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Super. Alors, on s'en fait une première avant les infos, quand même ?
Ah bah écoute, allez-y.
Il vous verra les mais et
pas très connue celle-là.
Ouais, fou.
C'est un meeting. C'est un sacré meeting.
C'est terrifiant.
On dirait Pécresse.
C'est un meeting.
Pourquoi elle est longue?
C'est pas Pécresse.
Ouais, je veux dire, pourquoi
c'est
elle est
longue
comme ça?
C'est pas
Dati. Il vous verra les mais et
résine. Elle est pas très connue.
Ouais, fou.
Je crois que je vois qu'il. Hidalgo?
Non.
C'est très très dur. Oula.
Bah attends, elle est pas connue.
Elle est connue. Elle était très impliquée. Disons que son heure de célébrité, c'était sous Hollande, on va dire.
J'étais pas né.
C'est de l'aide royale ?
Quoi ? Non, pas. Mais on est dans le style, ouais. C'est une socialiste.
Ah, c'est dur. Ah, bah, je vais abandonner pour ça.
Il y a un petit accent que vous entendez peut-être pas dans l'extrait.
Effectivement, je te le confirme. L'accent est difficilement.
Marseillais ?
Non.
Allez, dis-nous.
Dis-nous, s'il te
plaît. C'est Christiane Taubira.
Et ce soir.
Vous faire.
Désirer et aimer la République.
Je connaissais pas l'extrait avant de le trouver.
Moi non plus, je connaissais
pas. C'est qui, du coup ?
Bah, c'est Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, garde des Sceaux, sous Hollande.
C'est beau
dur.
Ce qu'elle vient de nous faire, là.
Ouais.
Elle avait un petit coup dans le nez, on dirait. Je vais vous faire aimer.
Ça peut trop servir.
J'aime bien.
C'était en 2002 et...
Je l'ai dit, j'étais pas né, alors. Voilà.
Ouais, mais...
Ah bah oui.
Attends, c'est 2002 ou 2003 ?
On va vers les infos.
Ok, 2002, j'ai rien.
On va vers les infos. C'est parfait. C'est fini. On avait dit affaire à suivre, affaire suivie. Dans l'épisode précédent, c'est sur la chaîne d'information bolorienne CNews que Jean-Marc Morandini, fraîchement condamné pour corruption de mineurs et pour de bon, a été reconduit. Un choix contesté par Sonia Mabrouk alors, figure importante de la sphère médiatique de Vincent Bolloré. Donc Europe 1, Journal du Dimanche, JD News... Tout ça. Eh bien, Sonia Mabrouk a quitté ses médias. En conséquence, ça a fait parler Morandini de lui-même, qui s'est retiré de l'antenne, donc du moins temporairement, à en croire certaines sources. Et c'est pas la seule actu liée à CNews. Attention qu'il eût cru. C'est pas fini. L'Arcom et CNews, c'est une belle histoire d'amour par correspondance. Une petite lettre parfumée rose, avec une belle fleur dessinée dessus. Rien de mieux à retrouver dans sa boîte aux lettres. La nouvelle, une amende de 100 000 euros pour, oui, 100 000 euros pour des propos discriminatoires envers les Algériens et les Palestiniens. Combo. Si vous n'écoutez que Multimédia, une émission associative à la qualité variable, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous devez d'ailleurs penser que de tels propos ont lieu tous les jours. Mais que diable ont-ils dit pour que l'ARCOM agisse ? Eh bien, c'est Françoise Laborde, ici, qui déclare que les Palestiniens sont des, je cite, sauvage sanguinaire. Alors, c'est arrivé ce 8 août, et elle réussit à en faire deux lors de la même date, cette fois en déclarant que les Algériens sont, je cite, un facteur majeur de risque pour la sécurité publique. Je cite toujours, hein. Donc c'est un procès des propos vraiment digne d'un bar PMU. Une première, les podcasts. On n'en parle pas assez ici. Un des podcasts les plus prédominants sont les podcasts masculinistes, à destination de mâles adolescents principalement. Eh bien, pour la première fois, l'ARCOM va examiner un podcast, le podcast 10 000 pas. Alors, comme ça, ça ne vous dit peut-être rien. Mais si je vous dis Raptor Dissident, peut-être que ça va vous rappeler quelque chose.
Ah, c'est bon, j'ai.
Voilà. En effet, il faisait vers 2016 des vidéos testostéronées contre les woke. La base de l'instruction, des propos totalement indiffusable à la radio, comme, je cite avec de très gros guillemets, « le monde souffre d'une épidémie d'homosexualité », pour citer la moins pire.
Chaud.
Voilà, après, quelque chose me dit qu'il a probablement cité Rachida Dati. Bah bonjour.
Ce qui était problématique, je peux rebondir ?
Vas-y, vas-y.
Je me permets. C'est surtout que l'ARCOM s'est saisi de ça, là où normalement l'ARCOM, je crois, n'a pas vraiment de main sur les podcasts. Mmh. Et là, justement, elle s'est saisie de ça parce que c'était un peu, je crois que c'est parce que c'était diffusé sur YouTube que du coup elle a pu avoir ça. Et en fait, c'est en rediscussion de la réglementation, justement, de quand l'ARCOM, enfin, est-ce que l'ARCOM peut agir sur les podcasts? Parce que comme ça prend de plus en plus d'ampleur, à la base c'est pas inclus dans ses son périmètre d'intervention, mais là voilà, c'est un peu remis en cause à cause de ça quoi.
Pas bonjour. Les matinales diffusées à Ici France Bleu, c'est fini. Dans la volonté de faire des économies après les restrictions placées par le dernier budget voté à l'Assemblée, passer de coup de force à coup de 49.3. Les premières victimes directes, ce sont les matinales des antennes locales qui ne seront plus filmées, supprimant 50 postes de techniciens présents en CDD d'usage.
Ah mais ça c'est une...
C'est
dinguerie.
Je sais.
Et surtout ça a duré 15 minutes. Les matinales filmées, ça a duré 15
minutes. J'allais venir. C'est tout, puis je suis désolé, nous on est une radio asso, on a quand même des caméras, enfin...
C'est ça.
Ça n'empêche rien en fait.
C'est ça. Puis justement, j'allais y venir, une partie importante de la mutation justement de France Bleu vers Ici va être caduque dès la rentrée 2026, avec les tournages s'arrêtant en juin. C'est un testament de l'abandon de l'information locale publique de proximité, déjà portant d'une réputation peu favorable malgré leur rôle essentiel pour une meilleure information et pour la démocratie par extension. C'est une économie de 6 à 10 millions d'euros, compensant une partie des 86 millions d'euros amputés au service public. Je rappelle les chiffres, on en a pu en parler de manière étendue lors du mois dernier. Et oui, c'est vrai que finalement, les médias associatifs, quelle épingle ont-ils à jouer là-dedans, en fait ?
Bah, je pense que du coup, ça, encore, enfin, ça donne... j'essaye de formuler mon propos, je réfléchis en même temps. Non, mais ici, anciennement France Bleu, ils font de moins en moins en fait de local. Ça a été le cas aussi avec l'unification, enfin la programmation.
Oui,
je sais plus comment on dit, mais en fait la programmation musicale a été globalisée, c'est-à-dire que toutes les antennes ici avaient la même programmation.
Oui, c'est vrai, j'ai remarqué
et
ça.
Et du coup, on retire en fait petit à petit un peu plus de moyens, un petit peu plus d'originalité qui faisait que les antennes locales étaient particulière quoi, ce qui fait que c'était local. Et en fait, ça fait de moins en moins de local et, et du coup, je trouve ça dommage parce que il y a plus de médias publics locaux, mais en même temps, du coup, les radios associatives et les autres médias associatifs locaux peuvent encore plus, eux, ils ont encore plus de légitimité parce qu'ils sont vraiment proches de ce qui se passe vraiment quoi.
Écoutez RCN.
Et puis écoutez toutes les radios associatives.
Voilà, écoutez Fadjet, écoutez RCL,
soutenez vos médias. Associatif.
Écoutez des clics, écoutez nos collègues, tout simplement.
À Graffiti, là, vous aurez du.
Ah ouais, alors là, attention.
Là.
À ça,
et qui ont une très bonne.
C'est de proximité pure et dure.
Ouais, hein. Et ils ont une très bonne programmation musicale aussi, il faut préciser. Unique, jamais vu auparavant. C'est tout pour les infos. Julien, une petite notatis.
Ah bah vas-y, Julien, balance-nous ça. Elle est très facile, celle-là.
Zouf, mais non, mais ça.
C'est quoi la barre qui s'est tapée?
Ah, vous savez qui c'est là?
Mais non, mais ça.
Ah, moi je tirais Hollande.
Merde,
c'est quoi comme rire?
Ça ne sentait pas un petit coup dans le nez dans le rire?
C'est la salle.
Ouais.
Ça devait être au salon de l'agriculture ou où est-ce qu'il peut être d'autre de toute façon.
Attends.
Et qu'est-ce qu'il disait?
C'est ma cochonne.
Ouais.
Ah, c'était ça. Ma cochonne préférée.
Ma cochonne préférée.
C'est ma femme.
C'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse.
C'est dingue quand même. Mais de dire ça, mais c'est pas possible quoi. Mec, tu te présentes au présidentiel et tu dis des dingueries comme ça.
Enfin, ma femme, c'est de cochon. Bon. Soit, hein.
C'est parti pour le mot du mois.
On te laisse.
C'est parti pour le mot du mois. La réappropriation. Quentin Durenc est mort. C'était un nationaliste et royaliste de 23 ans. Il est notamment passé par l'Action française et sa mort est une première depuis l'Italie des années 60 et depuis les années 80 en France. C'est un événement qui est véritablement exceptionnel, notamment médiatiquement. D'habitude, c'est des militants antiracistes, bref, de gauche, qui trouvent la mort. Ismaël Ali, Hicham Mirawi, Jamel Benjabala et tous les morts aux mains de l'extrême droite méritent aussi leur minute de silence. Mais pourquoi autant de contextualisation ? Parce que c'est ce qui a manqué dans la plupart des médias concernant l'enquête, qui est toujours en cours, je précise. Ici, je ne vais pas parler de l'enquête, évidemment, mais de son traitement et de comment l'extrême droite se le réapproprie d'une manière assez cannibaliste. Alors, la réappropriation, c'est reprendre la possession, l'usage ou le contrôle d'un bien, d'un espace, d'une pratique, d'un savoir ou même d'un récit. Ici, on va parler récupération politique, précisément. Attention, faut noter, c'est la reprise de contrôle d'un récit, souvent dans le cadre de luttes sociales ou idéologiques. Alors, on va garder l'exemple introduit. Comment cette réappropriation débute ? Bah, par la bonne vieille désinformation, évidemment. Les circonstances de base filmées au balcon riverain ont par exemple été utilisées pour que Damien Rieu, par exemple, identifie, entre gros guillemets, une militante de gauche qui n'était même pas là lors des faits. En même temps, à vouloir chercher dans une soupe de pixels, on ne peut qu'inventer. Balle contre son camp avant même que son nom de famille soit dévoilé, la sphère d'extrême droite a partagé au moins 6 photos différentes de Quentin. Leurs points communs, elles sont toutes générées par IA, et aucune se ressemble. Donc une en particulier, d'ailleurs, s'agissait d'ailleurs de Quentin Piron, qui est mort en 2023 dans un accident de la route en Belgique, et non celle de Quentin Duranc. Donc ce n'est pas que des images et des personnes mal identifiées, c'est aussi des mots. Dès le début, le collectif Nationalisme féministe Nemesis a présenté leur version des faits avant même qu'une enquête ait lieu et la défendant avant que les images amateurs soient parvenues aux chaînes d'information. Version des faits qui s'est vite retrouvée contredite par les images. La situation dans laquelle s'est retrouvée d'ailleurs Alice Cordier en direct sur le plateau de LCI. La rédaction venait tout juste de recevoir les images. Sans oublier, soi-disant passant, que l'Humanité a révélé ce 23 février que des guet-apens, je cite, étaient organisés par Nemesis, messages dans des groupes Telegram à l'appui. Un tel événement secoue la campagne des municipales, qui est encore en cours. Et c'est surtout le RN de Jordan Bardella qui en joue pour gagner les mairies. On est sur l'aspect prioritaire d'ailleurs de la récupération politique, et c'est les chaînes d'infos en continu qui leur déroulent le tapis. L'allocution de Jordan Bardella concernant la mort de Quentin se retrouve la plus diffusée et reprise en duplex direct avec celle de Mélenchon, à l'inverse de l'échiquier politique, qui ne comprend que des magnétos de 10 secondes lors de sa prise de parole devant les autres insoumis. Et finalement, parlons cannibalisme. J'ai mentionné tout à l'heure la version des faits erronée de Nemesis, collectif nationaliste, je rappelle. Finalement, elles-mêmes ont reçu des critiques de la part de la fachosphère. Ces critiques ont été prédominantes sur les plateformes préférées de cette sphère politique, sur X et en podcast. Entre deux remarques graveleuses provenant de la cave de Cro-Magnon la plus arriérée qui soit, on est donc sur des critiques habituellement réservées aux woke et autres gauchias. Donc, au-delà du conflit des extrêmes comme le présentent la plupart des médias, on observe surtout des organisations se retournant contre elles avec souvent la même violence. Alors, ce qu'il faut relever avec ces éléments, c'est que dans les 4 jours suivant la tragédie, les 4 chaînes d'information en continu ont principalement mis en avant des intervenants de droite et d'extrême droite, entretenant d'ailleurs un rapprochement. Seuls les médias plus traditionnels, indépendants et écrits ont eu une répartition plus égalitaire, avec aussi plus de recul. Les cellules de vérification d'information ont aussi été peu sollicitées dues à la volonté de travailler immédiatement les éléments. Elles ont intervenu, mais seulement après avoir consulté un dossier assez complet pour le présenter. Bref, une réappropriation a lieu sur les plateaux et en campagne, surtout avec les municipales, et va être un élément clé pour les présidentielles. La famille de Quentin a même, d'elle-même, condamné la récupération de sa mort. Le traitement de cet événement est un exemple du fonctionnement de l'info en continu, vu lors de la présente émission d'ailleurs, mais aussi des techniques de désinformation qui ont lieu sur les chaînes d'information. Un aspect qui invite encore plus à sélectionner avec prudence ses sources d'information et de essayer de faire le tri. Cela peut demander un peu d'effort, mais dès que vous avez la main, vous saurez un pas en avant sur ce monde hyper connecté et saturé. C'est tout pour la définition. Pardon, c'était un petit peu plus lourd pour cette fois.
On allège le sujet par des petits patatistes.
Voilà. Non, juste après la musique, par contre, du coup, c'était prévu dans le coup du temps.
Très bien. Moi, j'ai pas regardé.
Mais voilà.
Bref.
Merci pour ce petit. ce petit biais. C'est intéressant d'en parler.
Oui, bah,
c'est délicat, mais c'est intéressant
d'en
parler.
C'est ça. Et puis, on va y revenir d'ailleurs juste après avec Martin, du coup, qui va continuer à en parler plus en détail cette fois du traitement médiatique et avec des extraits à l'appui, si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas ?
Exactement, tout à fait.
Super. Bref, tout de suite, on écoute Lies des Thompson Twins et on se retrouve après avec Martin.
Snapped in two, words are made to bend. Bigger, better, some stolen from Japan. Collected from around the world, I'll catch you if they can. Lies, 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 yeah. Lies, 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 yeah. Lies, lies. On your mind. Well, Cleopatra died for Egypt. What a waste of time. White ones and red ones, some you can't disguise. Twist of truth and half the news, can't hide it in your eyes.
Multimédia. Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCF.
Multimédia, partie de Julien, lance-nous une notatis et ensuite on va écouter Martin.
Alors celle-là, elle est particulière. En fait, comme c'était trop simple, on s'est dit avec Joris qu'on allait mixer deux sons à l'envers. Donc il va falloir, vous allez avoir deux voix en même temps à l'envers. Il va falloir retrouver à la fois le son d'un et le son de l'autre.
C'est technique, ok. J'ai le cri là. J'ai Jeanne au secours.
Ouais, ouais, ouais. J'ai la même aussi.
Mais le deuxième.
Sûr. Ouais.
Tu peux.
Bah, en fait, je crois que les deux, c'est Jean-Marie Le Pen. Hein.
Alors vas-y, mets que le 5.
Je sais pas.
Je crois que c'est Jean-Marie Le Pen aussi. En fait.
Je l'ai pas du tout.
Non, c'est pas du tout.
Je l'ai pas du tout.
C'est vraiment très facile.
Martin, dis-moi que tu as une idée.
C'est quasiment des palindromes.
J'ai aucune idée. Sérieux.
Ah, est-ce que. Attends, j'ai pas envie de dire une bêtise. Est-ce que c'est Hagra ?
Ouais.
Ah ! Comment il s'appelle ce monsieur ?
Moi je dis Hagra. Hagra.
Voilà.
C'est Jean-Pascal Zadi.
Ah voilà. Oh. Moi je dis Hagra.
Hagra.
Et Jeanne Moscou. Ah ouais, ça.
Ah, voilà. Le mashup, il est terrifiant.
Il est terrifiant, ouais.
Martin, on t'écoute ?
Oui.
C'est parti.
Aujourd'hui, petite rétrospective de la médiatisation du meurtre de Quentin Derenc survenu le 12 février dernier. Un meurtre qui a évidemment choqué la France entière et qui a été couvert dans les médias pendant des jours. Je me suis posé cette question, pourquoi ce meurtre, visiblement pour des raisons politiques, a été davantage médiatisé que d'autres? Les médias ont-ils fait un choix? Y a-t-il une raison objective à cela? Alors on va rester prudent, contrairement à certains médias, parce qu'une enquête est en cours, mais il s'agirait du premier meurtre en France commis par un mouvement antifasciste. Est-ce que c'est parce que c'est le premier qu'on en a davantage parlé, ou est-ce qu'on s'est juste habitué aux attaques et assassinats menés par les mouvements d'extrême droite? Parce que oui, rappelons les faits, 90% des 53 assassinats pour des raisons idéologiques depuis 1986 en France ont été commis par l'extrême droite. C'est ce que nous rappelle la sociologue Isabelle Sommier. Donc quand on entend Mario Maréchal nous dire que la violence d'extrême droite est dérisoire, c'est comme nous dire que Bardella a les compétences pour devenir président. Ça ferait un bon spectacle d'humour, mais ça n'est en aucun cas la réalité. Les violences physiques de l'extrême droite sont tellement récurrentes, c'est comme les condamnations chez LR, on ne les compte plus tellement qu'il y en a. Ça fait partie de la fiche de poste. Donc oui, on s'habitue. En tout cas, les médias ne médiatisent plus autant les agissements de l'extrême droite. Petit indice de pourquoi Pierre-Édouard Sterrin et Bolloré détiennent un empire médiatique. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il y a un deux poids, deux mesures dans la médiatisation des meurtres à caractère idéologique, qui se souvient d'Ismaël Ali retrouvé mort après une altercation raciste? Eh ben, ça s'est pourtant passé à Lyon, il n'y a même pas deux mois, et moi-même, je n'en avais aucun souvenir, un événement visiblement passé sous les radars. Et pourtant, qu'est-ce qui diffère ces deux ignobles événements? Ce sont tous deux jeunes hommes qui se sont retrouvés tués pour motifs idéologiques. La seule différence que l'on peut observer, l'un est commandité certainement par l'extrême droite, l'autre par un mouvement antifasciste. Si c'est cet élément-là qui fait la différence de médiatisation, alors on ne parle plus de journalisme. L'influence de l'extrême droite dans les médias est si forte qu'elle arrive à instrumentaliser la mort d'un homme et d'en parler pendant des jours sur les plateaux télé. Le lendemain de la mort du militant nationaliste Quentin Derenc, Alice Cordier, présidente du mouvement Némésis et proche apparemment de Quentin Derenc, fait le tour des plateaux télé. Les antifascistes seraient venus armés, taper des hommes qui seraient venus assurer la sécurité du collectif Némésis. Mais pas de bol, le Canard Enchaîné a publié des vidéos de la RICS et on sait désormais par plusieurs sources que ce sont les fachos qui sont venus armés et qui ont attendu les militants antifascistes au coin d'une rue pour les prendre par surprise. La violence n'est donc pas à l'origine ce jour-là des antifas, mais bien de l'extrême droite. Cela a entraîné derrière les violences commises par les mouvements antifascistes. Mais dans certains médias, on aura entendu l'inverse pendant des heures sans avoir aucune information fiable et vérifiée. Je reviens maintenant à la France Insoumise, qui est tenue par les journalistes et une bonne partie de la classe politique moralement responsable du meurtre de Quentin Derenc. Pour quel motif? Parce que la jeune garde a des liens avec le mouvement. Un collaborateur du député Raphaël Arnaud a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir tué Quentin Derenc. Et ce même Raphaël Arnaud était l'un des fondateurs de la jeune garde avant de quitter ses responsabilités lors de son élection en 2024 à l'Assemblée nationale. J'ai du mal à comprendre pourquoi devrait-il démissionner, depuis quand un employeur est tenu responsable des agissements de ses employés. Et si c'est le fait que la France Insoumise a déjà eu recours à la jeune garde pour sécuriser des événements, pardon, mais pourquoi on ne parle pas des écologistes qui ont eu eux aussi recours au service du mouvement La Jeune Garde? Mais ça, aucun média n'en parle. Je ne dis pas que La Jeune Garde était exemplaire, au contraire, ils sont impliqués dans plusieurs faits de violence. Mais pourquoi reproche-t-on uniquement à LFI d'avoir des liens avec eux? Plus je creuse le sujet, plus j'ai l'impression de voir une énorme machine de récupération politique encouragée par les médias pour se faire LFI à l'occasion d'un terrible meurtre. J'étais dans une gare le week-end dernier et j'ai lisé les titres des journaux. Je pensais avoir mal lu, mais non. Marianne titrait en gros « LFI, de point, les nouveaux fascistes ». Il y a une telle inversion des valeurs. Jordan Bardella appelait récemment à un barrage républicain contre l'extrême-gauche et LFI. Ça semble ne choquer aucun journaliste. Aurore Berger, ministre macroniste, disait, je cite, que la France Insoumise était un parti anti-France, une expression tranquillement empruntée à Charles Maurras, ancienne figure de l'extrême-droite française, à croire que la Girouette prépare son transfuge ORN en cas où l'extrême-droite arriverait au pouvoir en 2027. Et pour finir, juste deux petits rappels factuels. Aucun élu LFI n'a été condamné pour antisémitisme, contrairement au RN. Sur la brutalisation du débat public, j'ai pas l'habitude de défendre la personne de Mélenchon, mais voilà ce qu'il disait lors des manifestations sur la réforme des retraites. Dès qu'il y a de la violence, ça réduit, ça rabougrit notre combat. Et cette phrase se retrouve dans beaucoup de ses discours encore aujourd'hui. Alors après, que la violence et la polarisation du débat lui servent pour ses ambitions électorales, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Alors à tous les médias, merci de ne pas oublier que l'immense majorité des violences commises sur fond idéologique sont portées par l'extrême droite. Cela évitera que l'on ait l'impression que vous hiérarchisez les crimes. L'extrême droite semble de plus en plus proche du pouvoir en France. Alors merci de ne pas leur offrir les clés de l'Élysée sur un plateau. Et en n'accusant pas la gauche de tous les maux et en ne répandant pas les fake news de l'extrême droite et en vérifiant les faits.
Merci Martin. Merci énormément pour ce travail sur cette chronique. C'est intéressant parce qu'on est genre à quoi 100, 300 kilomètres, mais on a tous observé la même chose, en fait.
Oui, c'est vrai. Oui, oui. Bah, c'est assez impressionnant comment la machine médiatique s'est mise en place, et je ne sais pas si ça part des médias ou ça part des politiques, parce qu'on a vu très très vite, je ne sais plus si c'était Gérald Darmanin ou Laurent Nunez, enfin c'est à peu près pareil, tout de suite accuser les mouvements Antifa alors que l'enquête venait de débuter. Et c'est pareil en fait, tu disais tout à l'heure, tu disais que les médias vont de plus en plus vite avec le fait que ça soit de l'info en continu.
Oui.
Bah, les politiques font pareil maintenant aussi.
Bah, de toute façon, c'est de la communication maintenant, la politique déjà. Mais bon, c'est un peu une banalité de dire ça.
Puis surtout, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'il n'y a même pas à récupérer politiquement ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est des manifestations. Voilà, c'est un meurtre qui arrive. Et en fait, ça devrait être récupéré pour accuser personne. C'est-à-dire que dans tous les cas, cet acte est condamnable, et c'est pas la faute d'un parti, c'est pas la faute d'un idéal ou je sais pas quoi. Y a des meurtres des deux côtés, si on peut dire qu'il y a deux côtés, même si c'est très polarisé de dire ça. Un meurtre, dans tous les cas, c'est condamnable. Et en fait, cette personne, on attend le résultat de l'enquête, mais devrait être condamnée à la hauteur de ses crimes. Et puis c'est tout quoi. Oui. On devra comprendre pourquoi elle a fait ça et la punir en conséquence. Mais c'est dommage qu'on fasse tout ce travail médiatique, ça sert à rien de tourner autour du pot, et en fait ça crée juste encore plus de conflits qui à mon sens n'a pas trop d'intérêt.
Justement, conflit... Pardon,
non, je disais juste, je me demande si l'approche et les échéances électorales qui arrivent vont pas amplifier ce phénomène.
C'est possible,
c'est parfait, on a trouvé à quoi se raccrocher.
Justement, on parle de phénomènes, on parle de conflits. Justement, des fois, la littérature, c'est la meilleure arme pour en parler.
Et oui.
Pablo, tu sais lire?
Je sais lire, et oui. En ce moment, je m'en mets à la lecture. Et je vois me regarder avec vos grands yeux. Mais c'est quoi un livre? Levez les yeux de vos ordinateurs, malheureux. Et oui, sans surprise, je suis le moins illettré de cette bande. Mais bon, seulement depuis quelques mois, parce que je me suis rendu compte que l'édition décembre 2006 du magazine Picsou ne suffisait plus pour briller en société. C'était une raison suffisante pour me motiver à mettre à jour sur les classiques du siècle dernier. Du coup, comme mon dada à moi, c'est la dépression, l'encre noire, une tache de fruits rouges sur du lin, l'architecte de la place Simone Veil de Nancy. Bref, la désolation. J'ai choisi George Orwell. George Orwell, c'est un mec qui boit du noir. Vous aviez sans doute lu La ferme des animaux, un roman tout mignon en apparence, mais qui fait finalement bien bader. Ça m'a plu au lycée. Et une autre œuvre de lui a atteint mes écoutilles ces derniers mois. Donc, j'ai lu 1984. Pour ceux qui l'ont lu, courage, on est ensemble. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une dystopie. C'est le portrait d'une société totalitaire dans laquelle tous les citoyens sont surveillés, contrôlés et manipulés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Big Brother, le surveillant omniprésent. Le livre a aussi eu droit à une adaptation au cinéma. Et ces derniers temps, on a pas mal entendu dans les médias des comparaisons entre des situations dépeintes dans l'ouvrage et la vie réelle, en fait. Mais alors, lesquelles ? Eh ben, j'ai tout listé. On peut dire le novlang, en fait, dans la société fictive de 1984. Le novlang, c'est le dialecte créé par le régime en supprimant les mots jugés inutiles et en synthétisant le langage. Par exemple, on ne dit plus bon et mauvais, mais bon et un bon. Pourquoi pas? Cette manigance vise en fait à limiter le langage pour finalement anéantir la capacité de penser et donc la capacité à agir contre la volonté du parti. Exemple réel, l'administration de Trump qui bannit des centaines de mots comme femme, climat et inégalité dans les revues scientifiques, les supports officiels ou les programmes scolaires. On peut citer aussi l'abandon de la police d'écriture Calibri, jugée trop inclusive et remplacée par le très sérieux Times New Roman pour les écrits officiels. Ok, autre chose, la guerre c'est la paix. Dans le bouquin, trois états sont en guerre perpétuelle, l'Eurasia, l'Estasia et l'Océania. Ce contexte instaure un climat de danger permanent, c'est un prétexte pour justifier les pénuries incessantes et la pauvreté en général. Cette atmosphère préoccupe les citoyens et les empêche de se concentrer sur leur bonheur et les choses essentielles comme promener son chien, sentir des tulipes ou manger une ratatouille. C'est mes choses essentielles à moi. Exemple réel, les médias qui nous tambourinent avec les guerres Russie-Ukraine, Israël-Palestine, Amérique, Europe et tout. Par contre, parler des écarts de richesse croissante entre les milliardaires et nous, non. Ou parler du dérèglement climatique, ça fait deux mois qu'il pleut, des inondations partout, c'est rigolo, mais d'où ça vient? Et on pourrait en citer d'autres, comme les fake news assumées, les sondages manipulés, les autodafés de registres historiques, les sources d'informations biaisées, la surveillance de masse boostée à l'IA, ambiance. Donc voilà, maintenant qu'on s'est bien tous flingué le moral, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de ces comparaisons entre ce chef-d'œuvre dystopique du 19e et l'actualité de ces dernières années? Bon, déjà, George Orwell, de son vrai nom Eric Blair, haha, démasqué, eh ben, c'était pas un gars très positif. Il tachait souvent ses fringues blanches avec des fris rouges, et ça en partie dû au fait qu'il a vécu pas mal de choses pas ouf, genre la guerre civile espagnole, les forces coloniales en Birmanie, il a été vagabond entre Paris et Londres, il a vécu les guerres européennes, et du coup, ses livres, c'était un peu son exutoire, mais surtout, il y rendait compte de son ressenti du monde dans lequel il évoluait. Il crachait un peu tout ce qui le révoltait, et ça dans le but d'éduquer ses lecteurs. C'était aussi son dernier bouquin, 1984, il l'a écrit rongé par la tuberculose. C'est un peu son dernier soupir artistique, comme les dernières volontés d'un mec profondément opposé aux dérives de son univers. 1984, c'est une description de son présent, caricaturé. Dans un sens, on peut dire qu'il perdait un peu la tête, donc... Si vous trouvez que ça sonne étonnamment réel, ben faut peut-être commencer à se poser des questions quand même. On s'en approche parce que toutes les dystopies paraissent inatteignables dans la mesure où on s'imagine que ça arriverait d'un coup. En réalité, c'est très progressif, changement par changement. Finalement, heureusement qu'il nous a pondu ce classique à l'époque, parce que si on prend aujourd'hui conscience que c'est pas si dystopique que ça, bah c'est peut-être qu'on a encore le temps de rectifier le tir. Pour le citer, la morale à retenir de cette situation dangereuse et cauchemardesque est simple. Faites en sorte que cela ne se produise pas. Donc faisons Bellec. En attendant, lisez des livres, que vous lisiez Picsou Magazine ou George Orwell, et surtout, on garde le smile.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il me semble justement il y a une bande dessinée Picsou 1984, si je dis pas de conneries.
Ah ouais ?
Il me semble
que je lise alors. Ou alors, mes deux passions réunies en un nouveau.
Mais il y en a une qui est assez dystopique, il me semble, mais c'est marrant que tu fasses le rapprochement. Une dernière notatis, rapidement, avant de finir de boucler l'émission.
On a le temps.
Vas-y.
Soyons fous.
Allez, chacun un essai. Martin, tu commences. Martin, tu commences, un essai.
Aucune idée.
Okay.
Alors là, vraiment, même la voix, là, c'est rien qui me...
Pareil, j'en ai aucune.
Waouh, je suis bloqué aussi. Super, réponse, s'il te plaît.
C'est François
non,
Hollande.
C'est pas vrai.
C'était sûr. Non, c'est pas vrai.
Il est le président des très riches.
Mal perdu.
Parler de Macron.
Pas mal.
Et oui.
En tout cas, merci. C'est tout pour la 5e de Multimédia. Merci de nous avoir captés sur RCN et RCL. Merci à Pablo et Martin pour leur chronique. Julien et Mathis pour leur notatis. Joris à la technique. Et évidemment, à vous pour nous avoir continué à nous suivre. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir.
Bisous.
Bisous.